Ils exercent un métier essentiel, un métier de passion, de passeur. Partons à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui créent dans la cité des espaces de culture et de convivialité. Ils nous racontent leur parcours personnel, les valeurs qui les animent, les coulisses de leur profession. Écoutons-les, des libraires se livrent.
Portrait de libraire. Brice Torrecillas s'entretient avec Roselyne Gutiérrez, librairie La Renaissance, à Toulouse.
Bonjour Roselyne.
Bonjour.
Bonjour Roselyne Gutiérrez, directrice depuis 1979 de la librairie La Renaissance. Nous sommes au Mirail, 1 allée Marc Saint-Saëns, 31 000 Toulouse, mais auparavant on se trouvait au centre-ville de Toulouse, c'est bien ça?
Oui, il y a longtemps, parce que ça fait 40 ans maintenant qu'on est arrivé dans ce quartier du Mirail, à Bassocambo. Et avant ça, effectivement, la librairie est restée de longues années rue Pargaminière, la rue des Parcheminiers, des libraires donc. Mm-hmm. Où à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de librairies. Quand j'y étais, il y en avait 11. Il y en a un petit peu moins maintenant, hélas.
Et qu'est-ce qui a fait que vous ayez souhaité déménager?
Alors, je crois que d'abord, il faudrait revenir un peu à pourquoi et comment cette librairie est née.
Absolument, avec ce nom si superbe, La Renaissance.
Eh oui. Des fois, on nous dit La Résistance, d'ailleurs. Des fois, les gens se trompent, mais ils ne se trompent pas de beaucoup.
Oui, ça va bien, La Résistance.
Absolument, puisque cette librairie est née en août 1944, de l'initiative de résistants, qui, dans un local, ont mis des livres sur une table, des livres que souvent eux-mêmes avaient écrits, puisque parmi ces résistants, il y avait Pierre Gamara, qui était un romancier, qui était un instituteur, qui avait pris le maquis, et qui avait donc déjà écrit des livres que Pierre Gamara, nous avons fêté d'ailleurs les 100 ans, le centenaire, il y a 2 ans, ici même à la librairie. Donc, cette librairie est née en 44. Alors, inutile de vous dire qu'à l'époque, c'était un véritable exploit, parce que la France n'était pas encore complètement libérée, on était en zone sud, enfin ils étaient, parce que moi j'étais pas à l'époque, je le dis tout le temps, pas parce qu'on connaît l'histoire qu'on y était, forcément. Ces résistants, ils se sont dit qu'il fallait reconstruire le pays d'un point de vue économique, industriel, parce qu'évidemment la France allait sortir de la guerre dans un état assez mauvais, forcément, mais qu'il fallait aussi reconstruire la culture, parce qu'un pays sans culture, c'est pas grand-chose. D'ailleurs, on peut penser à aujourd'hui.
Oui, c'est vrai qu'il y a quelques échos.
Il y a des échos, mais il y a des échos depuis longtemps, d'ailleurs. Et donc, cette librairie est née comme ça. Alors, vous dire que question papier, tout ça, c'était pas, à l'époque, c'était pas leur préoccupation principale. Leur préoccupation, c'était justement de faire renaître toute la littérature qui était interdite ou brûlée ou pillée par les occupants allemands de l'époque. Et donc, d'où ce beau nom de Renaissance qui nous plaît beaucoup. Et comme quoi, résistance, renaissance, c'est...
Ça arrive, mais ça pas par hasard.
Et ça n'est pas un hasard du tout. Voilà.
Cet aspect militant, il a été conservé depuis.
Ah ben justement, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus dans le quartier du Mirail. Parce que la librairie est restée, bon, elle a été rue de la Chaîne, elle a été dans 2-3 adresses. Et puis donc, elle a fini rue Pargaminière où elle s'est installée pendant quelques dizaines d'années. Et il a été décidé par les libraires de l'époque et les responsables de la librairie de l'époque que, vous savez, dans le centre-ville, dans les années fin 70-80, déjà la spéculation immobilière, toutes ces choses-là, les bails commerciaux, tout ça, c'était un peu compliqué déjà à l'époque. Et de toute manière, la décision a été prise de venir dans ce quartier du Mirail où à l'époque il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas le métro, il n'y avait pas toutes ces entreprises, il y avait les cités et en gros le géant casino, c'est tout. Et il a été décidé de venir ici pour juste porter dans des quartiers qui en avaient peut-être besoin, des lieux de rencontre, des lieux de culture, de la littérature.
En fait, il y a une double raison, une raison économique, si je vous suis bien, et une raison plus militante.
Mais c'est-à-dire qu'au départ, ce n'était pas tellement économique, mais ça nous a donné, ça nous a conforté dans l'idée de venir ici, puisque très vite, le centre-ville s'est retrouvé. Bon, puis il y avait aussi l'installation de la FNAC, enfin, toutes ces choses-là qui ont fait que le centre-ville, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, ces très grosses librairies, la FNAC, seules les librairies un peu spécialisées, sont restées dans ce petit microcosme autour de la place du Capitole. C'est où des librairies militantes, des librairies spécialisées, voilà. Mmh. Et puis des grandes grande librairie, enfin une grande librairie, plus la FNAC, qui à l'époque, évidemment, avait fait pas mal de dégâts dans la librairie générale, quoi, voilà. Donc nous sommes arrivés au Mirail, et moi, alors pendant ce temps...
En 1981, c'est ça.
Le 28 janvier 1981, très
alors,
exactement.
Alors, avant de s'installer au Mirail, juste quand même, donc vous avez connu pendant 2 ou 3 ans, si je compte bien, la rue Pargaminière.
Voilà, c'est ça. Alors, oui.
Oui. Non, je voulais savoir si l'ambiance était... Enfin, l'ambiance, elle n'est pas forcément la même, mais je voulais avoir quelques souvenirs de cette époque-là, de la
Alors,
rue Pargaminière.
Alors, les souvenirs de l'époque, moi, j'étais étudiante à l'époque, et je vendais des livres, justement. Là, c'était strictement militant, puisque je n'étais pas encore libraire, à la fac du Mirail. On y avait ce qu'on appelait une table de presse à l'époque,
ouais.
Où on essayait de parler des événements avec des journaux, avec des tracts, mais aussi avec des livres. On faisait en même temps que la vente des livres, par exemple, je me souviens d'une grande collecte qu'on avait fait pour les ouvriers et les ouvrières de Carcel. Qui était une entreprise d'habillement où tout le monde allait très mal, puisque ça a été la fermeture après de Carcel. Et pour la petite histoire, une des anciennes ouvrières de Carcel est venue travailler ici avec moi, et on est restés 30 ans ensemble.
Ah oui.
Donc pour dire que, moi à l'époque j'étais étudiante, déjà le livre, moi j'ai toujours bouquiné. Ce qui est curieux, marrant, et pas que, j'allais dire, c'est que quand j'étais petite, j'ai passé mon enfance à Madrid, et à l'époque, il y avait Franco à Madrid, et pas que lui d'ailleurs. Et donc mes parents, on est nés à Toulouse, on est allé vivre à Madrid, on est revenu 10 ans plus tard, et mes parents achetaient déjà à la librairie de la Renaissance des livres pour enfants. Et c'est très curieux parce que j'avais lu tous les livres pour enfants de Pierre Gamarra, notamment un petit bouquin qui s'appelait Le Pharaon de Blagaron, et je me disais... plein d'années plus tard, si j'avais su à l'époque que je dirigerais la librairie qu'il avait fondée, comme quoi. Mais en fait, c'est pas un hasard,
histoire,
et c'est pas que le monde est petit, c'est que notre réseau est grand.
C'est joli. Mais cet engagement, cet aspect militant, il est né de quoi ? Du souvenir du franquisme ou...
Pas que le souvenir, oui. Moi, mon grand-père a passé 14 ans dans les geôles de Franco, quand même.
C'est ouais,
plus
ça
qu'un
laisse
souvenir,
des traces.
Ça laisse des traces. Ça laisse encore des traces, puisque même mes petits-enfants connaissent l'histoire et on en est très fiers. Parce que voilà, il a passé du temps en prison, mais il n'avait rien fait de mal, en tout cas. Il avait fait beaucoup de choses de bien. Et en fait... On a besoin des livres, mais ça, depuis que je sais lire, j'y pense, pour s'évader, mais pas que, pas forcément pour sortir, parce que quand on s'évade, c'est qu'on est en prison. Et moi, fort heureusement, je n'étais pas en prison, enfin, pas tout le temps, en tout cas. On est des militants du livre, comme de très nombreux libraires sont des militants du livre. C'est-à-dire que, vous savez, au moment des années 90, par là, quand on parlait de livres, arrivait ce qu'on appelait à l'époque les NMC, les nouveaux moyens de communication, où tout le monde adore ces initiales-là,
oui.
Qui souvent ne veulent rien dire au bout de quelques temps, plus personne s'en rappelle. Mais on nous disait déjà, mais vous êtes des dinosaures, le livre c'est fini, machin, tout bon. Quand les ordinateurs sont arrivés, les papetiers ont dit, oulala, on va plus vendre de papier. Bon, force est de constater qu'aujourd'hui, depuis qu'il y a les ordinateurs, jamais on a dépenser autant de papier, puisqu'effectivement, en appuyant sur un bouton, ça s'imprime. Quand il fallait faire les commandes à la main sur 10 ou 12 pages quadrillées, on faisait très attention de ne pas gâcher le papier ni l'écriture. Et du coup, le livre n'était pas fini à l'époque comme il n'est pas fini aujourd'hui. La preuve en est, tout ce qui nous est arrivé là depuis quelques mois, on a dit, enfin, on a reconnu que le livre était essentiel. Et ceux qui y travaillent, c'est-à-dire les libraires, les bibliothécaires, les auteurs, les éditeurs, tous, on est essentiels. Mais nous, ça fait longtemps qu'on le sait.
Et la part de lecture numérique, elle est insignifiante.
Alors, moi, je n'ai pas les statistiques, parce que bon, ça, je ne suis pas là-dessus. Il y en a un peu, mais de toute manière, ça ne prend pas trop. Enfin, surtout, quand c'est pour la lecture, j'allais dire la lecture plaisir, entre guillemets, même si toutes les lectures peuvent être plaisir. Ce que je veux dire par là, c'est que les chercheurs, les étudiants, les profs, vont souvent sur des livres numériques, d'abord parce que leur prix est assez élevé, en général, parce que ce sont des petits tirages, ce sont des ouvrages qui n'ont pas beaucoup... Bon. Mais sinon, globalement, les gens, oui, ils téléchargent des livres quand ils partent en congé loin, pour pas que ça pèse dans les valises. Mais sinon, le lectorat est là. Et notamment pour les enfants, qui est une très très grosse partie de notre activité, quasiment la moitié. Quel bonheur pour les enfants de tourner les pages avec eux, parce que je rappelle que les adultes, ils ne lisent pas des livres aux enfants, ils lisent des livres avec les enfants.
Oui.
Je le dis parce que de temps en temps, comme ça, il me plaît de rappeler certaines choses qui sont des évidences, mais comme on dit, cela va sans dire, mais cela va beaucoup mieux en le disant. Et donc, quand l'enfant tourne des pages, quand on le tourne avec, quand il se sert aussi du livre pour y mettre des petites voitures dessous, parce que le livre peut servir de cabane, et après, quand on l'ouvre, c'est une cabane à rêve.
Ouais, ça vous plaît, ça?
Ouais.
Les souvenirs, vous, de lectrice toute petite?
Bon, eh bien, moi, je lisais beaucoup. Beaucoup, mais vraiment depuis toujours. Après, j'ai fait des études de lettres. Quand je suis arrivée en France, j'étais en milieu de première, en étant partie à 7 ans. Et j'ai fait des études de lettres, des études d'espagnol.
Mais vous parlez français quand vous...
Ah oui, mais moi je suis née ici.
Ouais. Oui, c'est vrai, vous l'aviez dit.
Et de toute manière, ici, on parlait espagnol à la maison et là-bas, on parlait français. Mm-hmm. Et nous avons eu, avec ma sœur, non pas la chance, mais la présence d'esprit de nos parents de nous naturaliser quand on est née, française. Et donc, on a pu faire nos études au lycée français de Madrid. Et donc, on faisait les deux bacs en même temps.
D'accord.
Donc, on est bilingue, ce qui est, ça par contre, une chance. Et donc, ces études de lettres, j'étais destinée à être prof d'espagnol. Bon, quand j'ai passé le CAPES, il y avait 8 postes nationalement, j'étais 9e, raté.
Pas de frustration?
Énorme, sur une année. Et puis, de suite après, on m'a proposé de m'occuper de la librairie. Et effectivement, nous avons fait le déménagement, nous sommes arrivés ici, autour de nous il y avait des champs et le parking du casino, c'est tout. Il faut se rappeler de l'époque, c'était il y a 40 ans, pour les plus anciens qui ont connu ce quartier du Mirail. Mais déjà à l'époque, il y avait ici une association qui s'appelait la Maison des Racines du Monde, qui faisait un magnifique festival, qui était le festival Racines, qui se passait au bord du lac de la Rainerie, où on montait des villages. Et il y avait des cabanes, et dans chaque cabane, il y avait des choses, et dans une de ces cabanes, il y avait la librairie. Et donc, avec cette association, on a commencé à faire des lectures dans les escaliers, des lectures dans les salles à manger, des spectacles. C'est là que j'ai rencontré Jean-Michel Hernandez, lors d'un festival Racines, puisqu'il avait demandé à des auteurs d'écrire un livre sur moi et l'autre rive, et on en a fait un livre puisque aucun éditeur n'en a voulu. Ça a été le premier livre que nous avons édité aussi, et qui est un très beau bébé et qui nous a donné l'occasion de participer à plein de rencontres avec les auteurs, puisqu'il y avait des auteurs de tout le bassin méditerranéen. Et notre amitié avec Jean-Michel Hernandez de la compagnie Chergui Théâtre a fait qu'on a poursuivi avec lui ce qu'on avait commencé avec la Maison des Racines du Monde, qui malheureusement a disparu depuis fort longtemps.
C'est dire que vous croyez au pouvoir du livre, vous avez pu l'observer ça? Est-ce qu'on peut retourner des gens, retourner des opinions grâce au livre?
Ah oui, absolument. Et quel que soit le genre de livre, par exemple, il y a des livres de fiction, qu'on appelle de fiction, qui font écho à ce qu'on peut vivre, personnellement ou socialement ou humainement. Et souvent, je dis que ce soit un livre de dessin, les dessins de presse, les caricatures, des fois, c'est vraiment mieux qu'un tract, quoi. Parce qu'on fait appel à l'émotion, au sentiment. Avant que ça arrive à la raison, ça passe par le sentiment. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres de littérature, que ce soit de la poésie, du théâtre, du roman, de la SF, il y a qu'à voir Les Furtifs, il y a qu'à voir tous ces auteurs qui, dans leurs livres, mettent ce qu'ils vivent. Alors, même si c'est de la fiction, ils l'arrangent à leur sauce. Certains auteurs sont là pour en parler et pour en être les témoins. Et ça fait écho et ça permet de réfléchir. Parce qu'une fois qu'on finit le livre, vous savez que, comme disait Daniel Pénac, on lit un livre qui nous plaît très très vite, très très vite, et puis quand il reste que les 10 dernières pages, on ralentit parce que mince, ça va être fini, quelle horreur. Et moi, ça m'arrive très très régulièrement. Et du coup, on devient très vite boulimique parce que un même événement peut être traité par plein d'auteurs de très nombreux pays, sous plein de formes différentes, de la poésie, des essais, du dessin, et ça nous renvoie à la réflexion quand on a fini le livre. Bon, mais maintenant, on fait quoi?
Mais vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure. C'était quoi les lectures de la jeune Roselyne, et ce sont quoi les lectures de la Roselyne affirmée, libraire?
Oui, moins jeune, beaucoup moins jeune. Ben, quand j'étais petite, je lisais énormément d'albums et de romans. J'ai toujours eu une très très jeune, vraiment pour les romans, les livres qui nous, dans lesquels on s'enferme, qui ne nous enferment pas, voilà, pour vivre d'autres histoires, pour vivre d'autres lieux, même si on reste soi, bien évidemment, et pour les vivre avec ce qu'on est. Et très jeune, ça m'a beaucoup frappé le pouvoir qu'avaient les livres sur moi-même. Et donc, forcément, après, quand j'ai été devenue libraire, la différence entre la lectrice de l'époque et celle d'aujourd'hui, c'est que maintenant, quand je ferme un livre, je me dis, bon, maintenant, j'en fais quoi? Je vais le proposer à qui? À qui je vais essayer? Voilà, parce qu'on est des passeurs, en fait. C'est-à-dire qu'on lit pour le plaisir, bien évidemment. Et une fois qu'on a fermé le livre, on se dit, bon, ben...
Il est le même, ce plaisir? Il n'y a pas une espèce de d'usure?
Oh non.
De l'enthousiasme?
Non. Et pire que ça.
Ah oui,
ah oui, oui.
Il se développe.
Ah oui, oui, vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, le pouvoir, il y a le pouvoir du livre et le pouvoir de ceux qui conseillent les livres. Les libraires, les bibliothécaires, tous les médiateurs du livre. Parce que, voyez, par exemple, je vais vous donner une anecdote. Quand le confinement a commencé il y a juste un an et 15 jours, un auteur de mes amis qui s'appelle Jean-Louis Marteil, qui a créé une maison d'édition qui s'appelle La Louve, m'a appelé. Et m'a dit, écoute, on a écrit un livre, on a eu la bonne idée de le publier maintenant. Mais j'ai dit, parfait, hein, ça vraiment, on était le 20 mars, c'était très bien, 2020. Et il me dit, écoute, je te l'envoie quand même, parce qu'on ne va pas le sortir maintenant, mais lis-le, et j'espère que tu prendras autant de plaisir à le lire que nous en avons pris à l'écrire. Donc effectivement, premier livre du confinement, celui-là, qui s'appelle Orage sur un bénitier. Déjà le titre, bon, c'est une histoire vraie, ça raconte une histoire d'une révolte de nonnes, à Poitiers, dans un couvent à 589. Bien. Ces nonnes se révoltent, ça a fait le buzz à l'époque, et 589, il n'y avait pas les réseaux, hein, jusqu'au pape. C'est dire si la chose avait eu... Bon, parce que ces nonnes se sont rebellées contre la hiérarchie du couvent, d'abord, et c'est remonté jusqu'à la hiérarchie de l'Église. Bien. Donc, j'ai lu ce livre, j'ai appelé de suite l'auteur en lui disant, écoute, dès qu'il sort...
Tu peux compter sur moi.
Tu peux compter sur moi, mais pas sur moi. Pas sur moi, oui, sur moi comme libraire, mais tu peux compter sur mon enthousiasme. Parce que voilà. Donc j'ai lancé la machine. Effectivement, ça a très bien pris. Et quelques mois plus tard, Martin, notre libraire qui lui est plus science-fiction, BD, m'a dit, tu sais, il y a une jeune autrice toulousaine qui vient de sortir son premier roman. Je pense que tu devrais le lire. Vous voyez, comme quoi, des fois, on est incité par nos collègues aussi et nos amis. Et donc, j'ai pris ce livre, il s'appelle « Béni soit Sixtine ».
Mélissa Desmarres.
De Mélissa Desmarres. Et ce livre, alors là, bon, j'ai moins ri que « Orage sur un bénitier », mais je l'ai trouvé vraiment abouti, vraiment pour un premier roman. C'est rare de ne pas trouver des choses. Bon, elle est journaliste, elle sait écrire, bon, ça se sent.
Et le sujet lui tient particulièrement à
cœur. Et le sujet, voilà. Alors je me suis dit quand même, en fermant ce deuxième livre, je me suis dit, mais quand même, j'ai pas dit bon Dieu, mais enfin j'aurais pu.
C'est le cas.
C'est le même sujet, c'est la question de l'attitude de l'Église vis-à-vis des femmes. Et on s'aperçoit qu'en 14 siècles et demi, l'Église, alors l'apostolique, romaine, intégriste et tout, n'a pas bougé d'un poil. Donc, on a fait une dédicace des deux auteurs au mois de décembre. On a envoyé à chacun le livre de l'autre et ils ont un peu échangé, alors pas trop parce que c'était une dédicace, c'était pas trop le moment, mais quand même. Et voilà, et ce pouvoir qu'on a, c'est que
ça crée du lien
entre deux auteurs qui, a priori, n'auraient jamais dû se rencontrer, entre des auteurs et un public. Et on a fait là, voilà. Et là, on se dit, eh bien voilà, s'il y avait une chose. Parmi les centaines qui nous sont arrivées en 2020 à retenir, ça peut être celle-là parce qu'elle est belle, elle a bien fini. Parce qu'effectivement, ces livres, aujourd'hui, dans cette librairie, vendus comme ça au comptoir, aux gens qui passent, on a vendu le premier, après on a dit, attendez, on en a un autre, et maintenant on fait le doublé. Et c'est tellement chouette parce que ces auteurs-là, ils attendent de nous aussi qu'on... Parce qu'évidemment, vendre, bon, les meilleures ventes, les machines, tout ça, bon, oui, il faut les avoir parce qu'on nous les commande, mais notre pouvoir à nous, passeurs, c'est justement d'aller chercher pour des auteurs le livre qui a été écrit pour un public, sauf que ce public, il ne le sait pas, sinon on n'en parle pas.
Ça suppose de lire beaucoup et d'avoir une bonne équipe. Elle est composée de qui, cette équipe? L'équipe de la Renaissance?
L'équipe de la Renaissance, elle est composée de 7 personnes, donc il y a 6 plein temps. Alors on va commencer, bon, moi bien sûr, qui suis la plus ancienne. Je rappelle quand même Francette, avec qui j'ai travaillé pendant 30 ans, et Francette, bon... voilà, on aura passé plus de temps ensemble qu'avec personne d'autre dans notre vie. Il y a Émile Auchando qui, lui, est responsable de ce qui est événementiel. Alors, inutile de vous dire que là, dans la période, c'est pas qu'il est au chômage technique, mais enfin, pas loin.
Oui, mais quand même, on parlera de tout ça, parce que c'est un sacré boulot.
Mais on va parler de tout ça, absolument. Et ensuite, il y a Bruno. Bruno, qui est notre monsieur Polar, mais voilà, qui s'occupe aussi, parce que bon, on fait pas que lire, hélas. Il y a beaucoup aussi de...
Oui, non, voilà, vous en connaissez beaucoup des métiers où on est payé pour lire.
Non, pas trop. Non, pas du tout. Mais bon, Bruno s'occupe de tout ce qui est relation avec les clients, tout ça. Et il y a aussi Stéphane, qui lui est plus sur... bon, lui, il est plutôt polar aussi, science-fiction, BD, voilà. Sur la fiction, il y a du monde. Et il s'occupe aussi des livraisons, de passer les commandes, tout ça. Elisa, qui est notre libraire jeunesse, qui, elle, a un gros morceau de notre activité et qui lit aussi avec un bonheur extraordinaire, qui pleure en lisant des albums quand ils sont tristes. Oui. Oui. Et oui, parce que sinon, si on ne s'aime pas, comment voulez-vous qu'on émeuve les autres après?
C'est voilà.
Elisa, qui fait un travail formidable, puisque la jeunesse, c'est beaucoup. Et puis, Martin, qui est arrivé donc, il y a un peu plus de 3 ans, et qui, lui, est vraiment sur la science-fiction. Et c'est bien, parce que sur la science-fiction, c'est quand même un peu à part, même si, aujourd'hui, il y a des livres de science-fiction qui ne sont pas dans des collections de science-fiction, comme il y a des polars qui sont dans des collections blanches, et que tout ça est mélangé, et que j'ai envie de dire, et c'est vachement bien. En fait, cette équipe, elle est bigarrée, j'ai envie de dire, au niveau âge et au niveau parcours. Jusqu'à présent, les librairies n'avaient pas de libraire professionnel. On s'est quasiment tous formés sur le tas. Et comme c'est un bon tas, eh bien, on est tous... voilà.
Bon,
et on se forme les uns les autres. Voilà.
Et ce bon tas, il est efficace, très efficace. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de tout ce que vous faites dans les manifestations, parce que vous êtes réellement très actif.
Ben oui, parce que l'idée de venir ici au Mirail, c'était quoi? C'était de porter le livre là où les gens sont. Parce que les gens qui passent les portes des librairies, ben ils passent aussi les portes des bibliothèques.
Ouais.
Quand ce sont des familles, ils vont au cinéma, des fois ils vont au théâtre. C'est toujours le public qu'on appelle lisant. Les nouveaux lecteurs, bon, en centre-ville, l'offre couvre largement la demande. Les nouveaux lecteurs, on va les gagner ici. D'ailleurs, Elisa, notre libraire jeunesse, était à l'école Triolet, juste à côté.
Et ça marche?
Et ça marche, oui, ça marche, bien sûr, puisque... On a créé avec une association le Festival de Jeunesse, dont on va fêter les 20 ans, on espère, l'année prochaine. On a créé avec une autre association le Festival des littératures policières, qui est ici,
Toulouse
au Mirail,
Polar
Toulouse Polar du Sud, pour qu'on parle du Mirail aussi autrement que comme on en parle d'habitude. Et on est très fiers d'avoir créé ce festival ici. On a été la première librairie à participer au Marathon des mots, on le rappelle quand même, puisqu'à l'époque... À l'époque où le marathon s'est créé, tout ce qui est la culture alternative toulousaine était vent debout. Et on a été 2 à dire de suite oui, c'était la CAF Poésie, René Gouzen et nous. Donc ça aussi, ça fait partie de l'histoire.
Mmh.
Après ces festivals, on a participé à la création de nombreux autres festivals, notamment en jeunesse, à Pêche-Mounieux, à Seyss, à Fronton. Bon, Saint-Orens étant le papa de tous, j'ai envie de dire. Mais aussi, on organise des rencontres dans des bibliothèques municipales avec les bibliothécaires, des rencontres avec les auteurs, on aide à la préparation. On fait aussi des rencontres dans des bibliothèques d'entreprise, dans des écoles, dans des lycées, dans des collèges, enfin... L'idéal, c'est de chaque fois, voyez, parce que si on reste ici, une fois que le public est venu et par exemple a acheté les 2 livres dont j'ai parlé tout à l'heure, on fait quoi? Il faut en lire 2 autres, mais ceux-là, on va pas les laisser tomber, il faut qu'on les amène ailleurs. Et donc, on part avec nos bouquins et c'est dans notre ADN de partir avec nos bouquins et de les proposer partout où on peut.
Et quand c'est que vous trouvez le temps de lire?
Eh bien, comme tout le monde, le soir, hein, dans le lit. Ben oui, parce que à la librairie, la seule chose qu'on ne fait pas, c'est lire. Justement, hélas.
On pourrait reparler de ce quartier du Mirail, parce qu'en fait, il y a effectivement, on va dire, une population qui ne va pas directement vers le livre, mais aussi les grands ensembles. Il y a la météo, il y a tout ça. Vous parliez du mot bigarré, ça va très bien à ce quartier aussi, non?
Mais absolument. Parce qu'en fait, dans ce quartier, au départ, il y avait les cités, il y avait les collèges, il y avait le lycée polyvalent Rive Gauche, comme on l'appelle maintenant, même si le lycée professionnel s'appelle le lycée professionnel du Mirail. dans ce quartier sont venus s'implanter grâce à une mise en place de non-impôts, enfin de, comment on appelle ça, les entreprises qui venaient sur ce quartier ne payaient pas d'impôts. Bon, c'est bête parce que le quartier s'est arrêté juste devant notre porte. Mais comme nous avons le label LIRE aussi, depuis le début, on l'a eu pour toute l'animation qu'on fait, le fond qu'on porte tout le temps, tout ça. Donc est arrivée une nouvelle population qui ne vit pas au Mirail, mais qui travaille ici. Vous savez, le Mirail, il y a 40 000 personnes qui y vivent ou qui y travaillent. C'est énorme. C'est une ville dans la ville. Mais une ville où certains passent et d'autres restent. C'est-à-dire, et ça nous a donné l'occasion, par exemple, quand il y a eu le fameux commandé à emporter. Puisque ici, on a toujours parlé comme ça.
Que click and collect.
Oui, parce que ça,
ouais,
voilà.
Tout à fait, on est
parce
d'accord.
que tout le monde n'a pas cliqué. Il y en a qui ont téléphoné. Ouais. Vous voyez, voilà, parce que le clic n'est pas non plus universel. Et on a eu de nouvelles personnes qui nous ont découvert, qui étaient d'ailleurs espantées de passer devant la bombe. Parce que, comme disait Stéphanie Benson, une autrice anglaise qui a vécu longtemps en France, elle se cache, la rebelle, parce qu'on ne voit pas trop de la rue. Mais de toute façon, on n'a pas de vitrine, parce que qu'est-ce qu'on ferait avec une vitrine ici? Le problème, c'est pas d'avoir une vitrine devant laquelle les gens s'arrête, puisque devant ceux qui viennent, c'est ceux qui viennent jusqu'à chez nous. Et s'ils viennent jusqu'à chez nous, c'est pour avoir nos choix à nous, qui nous sont propres, comme d'ailleurs dans toutes les autres librairies. Et du coup, tous ces gens nous ont découvert, et ça leur a fait découvrir aussi un lieu. La librairie est locataire de l'immeuble, nous sommes tous salariés de la librairie, elle ne m'appartient pas, elle est gérée comme une scope, ça oui. Mais on est locataire de l'immeuble et on loue chaque fois qu'on en a besoin ce forum de 164 places assises, qui est quand même un sacré outil où on peut projeter des diapos, projeter des films. On a eu Gérard Mordilla qui est venu le 8 février dernier fêter les 40 ans de la librairie au Mirail.
Il y a eu Umberto Eco, il y a eu André Brink, si mes informations sont
Mahmoud Darwich, Luis Sepúlveda. En fait, avec toutes ces rencontres qu'on fait, parce qu'il y a les rencontres que la librairie fait elle-même, ouais. Il y a les rencontres que maintenant va organiser l'association qui s'appelle les Amis de la Renaissance, Lire, Penser, Agir, comme quoi, déjà dans le titre, on sent que ça va nous parler. Et puis il y a les rencontres qu'on a faites, par exemple, dans le cadre du Marathon des mots, où on a eu vraiment des auteurs qu'on n'aurait jamais pu avoir tout seul, bien évidemment. Et cette salle se prête vraiment, puisque c'est un forum, à accueillir tous ces auteurs et tout ce public. Et ils repartent tous ravis. Quand une rencontre est réussie, c'est quand le public est content, et les auteurs aussi. Et les libraires aussi, bien sûr, à y être.
Pour terminer, je ne vais pas citer Umberto Eco ou André Brink, je vais citer Roselyne Gutiérrez. Depuis le temps que j'exerce ce métier, j'ai lu ça dans une interview, ouais. Depuis le temps que j'exerce ce métier, j'ai toujours l'impression de faire chaque jour des choses nouvelles.
Mais ça m'arrive encore et c'est génial. Vraiment. Parce qu'après plus de 40 ans, se dire une fois, je sais pas, de temps en temps, se dire mais j'avais jamais fait ça. Mais c'est extraordinaire. J'ai fait des présentations de livres pour enfants au téléphone pendant le confinement, sans les livres. En ayant travaillé les livres avant, j'avais envoyé les livres et je m'étais mis plein de notes sur plein de papiers et j'arrivais à dire « Allez à la page 18 et regardez le dessin ». Et ça, c'est super. C'était une période compliquée, mais grâce à tout ça, on n'a pas perdu le moral, on n'a pas perdu non plus la librairie parce qu'on est dans une situation un peu compliquée, comme plein d'autres librairies, parce que l'année 2020... Et puis nous, vous savez, l'extérieur, ça représente beaucoup, beaucoup... beaucoup de notre activité. Et là, depuis un an, l'extérieur est à l'intérieur, on n'existe pas, et donc c'est un peu compliqué pour nous. Mais je peux vous assurer que cette équipe vaillante, lectrice et enthousiaste, ne va pas se laisser abattre comme ça.
Se laisser démonter, oui. Alors, on rappelle, l'intérieur, c'est une adresse, c'est 1 Allée Marc Saint-Saëns à Toulouse, donc la Renaissance. Et merci, Roselyne Gutiérrez.
Merci à vous.
Portrait de libraire. Un podcast du Marathon des mots avec le soutien de Toulouse Métropole.